Marc, chapitre 16, verset 9. Jésus, ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Quel choix de la part de Jésus, du Saint Jésus. Quel choix. Je ne sais pas, mais si tu poses la question dans la rue, le Fils de Dieu, le Roi des Rois, le Prince de la Paix, comme ça a été souligné dans la prière, à qui il se serait manifesté sur terre, la dernière de nos pensées aurait été Marie-Madeleine. On aurait pensé à Pierre, par exemple. Ou bien Jean, l'ami intime de Jésus, le premier à courir pour constater la résurrection. D'ailleurs, on voit ça dans Jean 20. Ou alors, sa maman. Aurait pu être la première à constater, en tout cas à voir le Christ ressuscité. Marie, dont une épée venait de transpercer l'âme, on aurait pu penser à elle. Marie-Madeleine ou Marie de Magdala est certainement la dernière personne à laquelle nous aurions pensé. C'est bizarre. Et finalement, notre regard est bien différent de celui de Dieu. Il faut le voir. Quel enseignement pour nos vies pouvons-nous tirer de ce fait? Quelles sont les leçons que Marie-Madeleine peut nous donner? Alors, on va essayer de voir ça sur quelques points. Hein. Le premier, c'est le témoignage de Marie-Madeleine. Son témoignage. Qui es-tu? Qui es-tu, Marie-Madeleine? Alors, c'est elle qui répond. Bien, mon nom, c'est plutôt Marie de Magdala. Il désigne mon lieu d'origine. Magdala, ça se trouve sur la rive sud-ouest du lac de Galilée. Et ma rencontre avec Jésus fut la rencontre de ma vie. Une véritable libération. Il m'a libéré de 7 démons. 7 démons. Et après ma libération, eh bien, j'ai pris place parmi les disciples de Jésus, ceux qui étaient le plus dévoués. Marie de Magdala. La première mention qui est faite de cette femme dans la Bible suit de très près le récit de l'onction des pieds du Sauveur par une pécheresse. Raison pour laquelle on a pensé que Marie de Magdala était la même femme. Tout le monde s'est dit que Marie-Madeleine était cette femme prostituée. En tout cas, on ne sait pas comment se manifestait la terrible possession dont elle était victime. 7 démons. Un petit rappel chronologique de sa vie. Au début du ministère de Jésus, elle se joint aux 12 et aux femmes qui soutiennent de leur bien le Seigneur et ses disciples. On trouve ça dans Luc, au chapitre 8. Souvent, les femmes sont assez... Elles ont tendance à soutenir, à prier, à être là, derrière les ministères. On la trouve assistant à la crucifixion, Matthieu 27. Elle s'assied en face du sépulcre, lorsqu'on y dépose Jésus. Et à l'aube du troisième jour, elle se rend au tombeau pour l'embaumement avec Marie, femme de Clopas et Salomé. Elle court à Jérusalem pour avertir Pierre et Jean que le tombeau est vide. Elle revient au jardin avec les apôtres et elle y reste après leur départ. Jésus lui apparaît en premier. C'est la première à avoir vu Jésus ressuscité. Elle s'empresse alors d'aller l'annoncer aux disciples, Jean 20. Puis, plus rien. Plus rien sur Marie-Madeleine. Alors, je ne sais pas si elle devait raconter son témoignage. On a tous un témoignage à raconter ici. Enfin, on a tous une vie, on a tous une biographie. Et je ne sais pas, mais elle aurait peut-être beaucoup de choses à nous dire, cette Marie de Madeleine. Certainement, elle nous parlerait de la grâce. C'est sûr. Parce que la grâce de Dieu ne correspond pas nécessairement à la langue maternelle que vous et moi avons apprise. Ceux qui en parlent le mieux, finalement, de cette grâce, ce sont celles et ceux qui voient et qui regardent le monde et les autres avec les lunettes de Dieu, et qui se voient aussi eux-mêmes avec les lunettes de Dieu. Parce que cette femme, elle a beaucoup souffert. Donc du coup, elle avait beaucoup à se faire pardonner aussi. Si c'était cette femme adultère, pécheresse, cette prostituée, elle avait beaucoup à se faire pardonner. Et du coup, elle connaissait la grâce. Regarder les autres avec les lunettes de Dieu, c'est-à-dire conscient que nous ne méritons rien. Mais par nature, nous sommes un peu comme Lucky Luke. Vous connaissez Lucky Luke ? C'est celui qui tire plus vite que son ombre sur les autres. On dégaine. Nous pouvons nous donner bonne conscience, vous savez, avec une liste pleine de croix sur la base d'un certain nombre de critères et dire sans trembler, moi, je suis dans la bonne colonne. Moi, je suis bien. Moi, ça va, pas de souci. Je peux commencer à évoquer tous les défauts que les autres ont, le manque de ceci ou le manque de cela. Mais ma propre colonne de défauts, elle fait rarement partie de ma liste. C'était peut-être certainement pas le cas de Marie-Madeleine. Le manque de grâce repousse les autres. Vous savez, lorsqu'on manque de grâce, quelqu'un a dit, même le chien de la voisine s'en rend compte. Manquer de grâce, manquer de bienveillance. Mais Marie-Madeleine vient de tellement loin, avec tellement de défauts à son actif, à sa vie, elle fait profil bas, quoi. Alors peut-être que Marie-Madeleine nous dirait « Je n'étais pas cette femme prostituée qui a versé du parfum sur les pieds de Jésus. » Peut-être qu'elle nous dirait ça. Ou elle nous dirait « Oui, c'est moi. » En tout cas, elle nous dirait « Il y a une chose que je sais, c'est que j'étais possédé de 7 démons. 7 démons qui étaient là, et va savoir ce que ces démons l'a poussé à faire. Va savoir. » En tout cas, ça ne peut pas être des bonnes choses. Hein. Marie-Madeleine n'était pas religieuse, mais je suis sûr que protéger sa réputation était le dernier de ses soucis. Elle préférait protéger l'honneur qu'elle apportait à Jésus. Elle se mettrait peut-être à nous parler de son enfance. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Son adolescence? Ses rêves? Je sais pas, les épreuves de la vie. Peut-être qu'elle rêvait d'être, comme toutes les petites filles, une princesse. Finalement, elle nous raconterait que ses rêves, c'était pas ça, quoi. Elle avait peut-être une enfance malheureuse, ou alors une enfance normale, va savoir. Peut-être qu'elle avait subi des abus, peut-être qu'elle avait subi la brutalité, comme cette petite fille qui a été brûlée 25 fois par une cigarette, quoi. Va savoir. Peut-être qu'avait-elle confiée à un orphelinat, à une famille d'accueil. On ne sait pas vraiment. La Bible, finalement, ne donne aucun détail, si ce n'est le fait que Jésus est devenu sa raison d'être. Sa raison de vivre, sa raison d'exister, sa raison de continuer, sa passion. Et avant que son Seigneur la rencontre, elle était possédée. Et il y avait quelque chose en elle qui clochait. Jésus la libère de 7 démons. Alors je sais pas, mais quand quelque chose se passe comme ça, on s'en souvient, quoi. Je sais pas si vous, dans votre vie, il y a des choses sur lesquelles, il y a des choses que vous vous souvenez. Il y a des souvenirs de libération. Quand Dieu est intervenu dans notre vie, à plusieurs reprises, on se souvient de ce qui s'est passé. Parfois, il nous fait passer des larmes au rire, de la tristesse à la joie, et parfois de la joie à la tristesse. Le zèle de Marie-Madeleine, ça c'est le deuxième point. À quoi ressemble le zèle de Marie-Madeleine? Alors elle est dévouée totalement à Jésus, ça c'est clair. Elle le suit, elle aime lui rendre service, se sacrifier pour lui, se consacrer entièrement à lui, à sa personne. Elle n'est pas du style à faire tout ça pour avoir une bonne conscience, ni pour remplir un devoir religieux, mais elle le fait par amour. Simplement par amour, par reconnaissance. Parce qu'après avoir été emprisonnée, parce qu'elle était emprisonnée avec ses 7 démons, elle vit maintenant la liberté. Elle se sent libre, elle est reposée. Et si Marie-Madeleine avait été une femme mariée, elle se serait consacrée tout autant à sa famille, à ses enfants, comme étant un ministère, un cadeau de Dieu. Le zèle, mes amis, c'est tout le contraire du devoir. Le devoir, c'est ce qu'on est obligé de faire à cause d'une loi. Comprenez ? À cause d'une loi. Le zèle, c'est ce qu'on fait lorsqu'on est passionné, lorsqu'on est amoureux, lorsqu'on aime l'autre. J'entends beaucoup de chrétiens qui affirment que nous ne vivons pas une religion, mais nous vivons une relation. C'est vrai ou pas? C'est ce que nous disons. Les mêmes chrétiens, je les entends dire ensuite, qu'ils ne savent pas ce que Dieu souhaite d'eux et qu'ils ne trouvent pas le chemin que Dieu a prévu pour eux. Vous ne trouvez pas qu'il y a un décalage? Il y a quelque chose qui est contradictoire là-dedans? Et alors, souvent, En tout cas, parfois, ces mêmes chrétiens qui ne discernent pas la volonté de Dieu, de leur Seigneur, pour leur propre vie, savent discerner la volonté de Dieu pour la vie des autres. Alors là, c'est le comble. C'est le comble. Nous vivons une relation. Je sais, c'est pas simple de découvrir la volonté de Dieu. Hier soir, j'étais encore en train de discuter avec une sœur qui habite à Paris, qui a un problème avec son boulot. Enfin, il y a eu un abus, quelque chose. Et donc, elle est au tribunal, elle a pas d'emploi, elle cherche sa voie, etc. Et c'est une jeune femme, par rapport à moi, elle est plus jeune. Mais elle connaît du monde aux quatre coins de la planète, je vous assure. Elle a son appartement à Paris, elle se pose des questions sur sa vie, mais elle a du mal à prendre un chemin. Elle a du mal à dire, je vais prendre un chemin et puis on verra après. Comment Dieu va fermer, ouvrir, etc. Et malheureusement, le chemin qu'elle essaye de prendre, c'est un chemin qui est dépendant des gens, des autres. Elle essaye de trouver des personnes qui vont lui dire, entre guillemets, sois mon assistante, ou aide-moi pour ceci, ou est-ce que je peux t'aider pour cela? Est-ce que je pourrais pas faire ceci dans l'église? Ou est-ce que je pourrais pas... Elle essaye quelque part de trouver sa voie au travers d'éléments qui existent, mais pas au travers de ce que Dieu attend d'elle. Pas au travers du regard de Dieu pour sa vie. Et c'est complètement différent. Et nous vivons un système où nous dépendons de tas de choses. Vous savez, c'est comme en politique ou comme dans l'État. Si on enlève tous ceux qui font des papiers, tous ceux qui font la paperasse, il n'y a plus de boulot. Vous comprenez bien. Il y a tout un système qui est mis en place. Si nous enlevons toutes ces personnes qui sont là pour remplir des papiers, et ça je l'ai vu avec mes papiers en ce moment, mais t'enlèves toutes les intermédiaires, mais il n'y a plus de travail. Donc on crée de l'emploi. Et parfois j'ai peur que dans l'église ce soit un peu pareil. On crée de l'emploi. Il y a une sorte de pyramide qui s'installe, virtuelle, parce que bien entendu on se dit que nous, on n'est pas comme le catholicisme romain avec toute cette pyramide, le pape, etc. Nous, c'est un peu différent, hein. Encore une fois, on est un peu comme dans ce discours que nous avons à tenir. Nous, c'est une relation et c'est pas une religion. Mais, dans les faits, il y a tout un système qui s'installe avec de la paperasse et des dépendances les uns des autres parce que ça fait travailler. C'est mieux de faire un congrès pour parler d'un sujet plutôt que d'envoyer un fichier PDF. Vous voyez, c'est plus avantageux de faire une formation sur ceci ou cela plutôt que d'envoyer un fichier avec ta formation et puis petit 1, petit 2, petit 3. Je dis ça parce que quelque part nous devons revenir à la source. Et Marie-Madeleine, elle était proche de la source. Elle était proche de son Seigneur. Depuis sa délivrance, elle est passée de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Elle suit son maître de lieu en lieu. Un Seigneur qui n'a rien dans ce monde, même pas un endroit où reposer sa tête, au point de demander l'asile à Jéricho à un ami, au point d'emprunter un âne à un autre ami pour entrer à Jérusalem et afin de célébrer la Pâque, il va encore faire appel à un ami pour retenir la chambre haute, eh bien c'est Marie-Madeleine, une de ses précieuses amies aussi, qui va le suivre, l'assistante de ses biens. Une amie fidèle qui va mettre à la disposition de Jésus son agenda, son compte en banque, sa vie. Elle est heureuse de le faire. Heureuse d'être là pour le soulager dans sa mission. Elle ne perd pas une miette de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Mais tout n'est pas simple, hein. Tout n'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, mais je crois que c'est moins compliqué que nous. Nous, on a tendance à se compliquer la vie. Conscient de son départ, il a laissé à ses disciples ce que j'appelle un protocole doctrinal humain. Le mot est un peu... Il nous a dit, voilà, vous savez ce que vous allez faire. Je mets des mots qu'on aime bien mettre, vous voyez. À ce moment, je vois, j'ai des amis qui sont en train de réfléchir sur l'évangélisation et ils parlent des trois clés, des clés pour l'évangélisation. Parce qu'en fait, les méthodes aujourd'hui ne fonctionnent pas. Donc on invente des méthodes pour éviter les méthodes. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis après, vous aurez des méthodes pour éviter les premières méthodes. Bref, Jésus nous dit tout simplement, il y a 2017 ans, Exactement. « Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venu vers moi. » C'est simple. C'est simple. Mais, vous savez, là-dedans, je crois qu'il y a deux sens. Dans ces phrases de Jésus, il y a un sens qui est littéral. C'est vrai, il parle d'une prison, hein, comme celle de Grasse. Il parle de gens malades, vraiment malades. Il parle de gens qui ont vraiment faim, qui n'ont rien à manger, qui ont la dalle, quoi. Et puis après, il y a un sens qui est aussi spirituel. On est entouré de personnes qui ont faim de justice. On est entouré de gens qui en ont marre d'être arnaqués, d'être arrêté à 2 km/h au-dessus de la limite de vitesse et perdre un point alors que Monsieur Tel au gouvernement qui, bon, voyez ce que je veux dire? Les gens en ont marre de ça. C'est là, aujourd'hui, on arrive à une période où les gens en ont ras-le-bol. Ils savent plus vers qui se tourner. Ils ont soif de justice. Et puis, il y a des gens qui ont faim aussi, de la même justice. Les hommes politiques et la publicité, ils ont bien compris ça. Ils ont bien compris qu'il fallait parler à nos cœurs. Alors, on va faire des promesses. Beaucoup de promesses et peu de mémoire. Parce que finalement, on ne s'en souvient pas après. Donc, on est entouré de gens qui ont besoin d'écoute, d'être écoutés. On est entouré de gens qui ont besoin d'être encouragés, de bienveillance. On est entouré de gens qui sont nus, c'est-à-dire sans espoir. C'est pas qu'ils manquent de vêtements. Ils sont les vêtements qu'il faut, mais au fond d'eux, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a plus d'espoir du lendemain. Il n'y a plus d'espoir d'une vie, de pouvoir avoir un emploi qui te convient, de vivre ta vie sereinement. Et quand bien même les gens qui avaient de l'espoir, par exemple, de trouver un mari ou un époux ou une épouse, ils se rendent compte au bout de quelques années de mariage que finalement, il y en a qui vont arriver à te dire « Ben, putain, si j'avais su. » Tu vois ? Sans espoir. Des gens vides. Des gens tristes, des gens qui deviennent même cyniques. Nous sommes entourés de gens emprisonnés aussi dans leur vie, dans leur travail, ou dans leur chômage, emprisonnés, dans leur vie de couple, dans l'éducation de leurs enfants. C'est pas évident ça. Franchement, c'est quelque chose de difficile. L'éducation, c'est difficile aussi. Nous, on a un ado, non, c'est plus un ado, c'est un jeune adulte à la maison. C'est pas évident. C'est pas évident. Il faut qu'il se fasse sa vie, son caractère, etc. Et souvent, on en pâtit. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous avons à faire. Et on a du boulot pour inverser la tendance. Vous voyez? C'est la même chose que je me dis pour Romain Tachi. Comment arriver là-bas et inverser la tendance? Les gens veulent pas entendre parler de Dieu. Si tu dis que tu es pasteur, j'ai plus de queue de cheval, hein. Je vous assure, hein. Ah, mais je suis pasteur. Ah, tu es pasteur. tu as des gens réfractaires. Et il va falloir inverser cette tendance. Et pour que le monde autour de nous retrouve la soif de Dieu. Il suffit pas d'aller dans la rue et dire, tiens, Dieu t'aime, hein. Dieu t'aime, hein. Ah ouais, Jésus, il existe, hein. Tu crois pas? Tiens. Ah, mais tu sais que tu es mauvais. Tu es né mauvais. Tu es né mauvais. Tu dois te repentir. Et quand tu te repentiras devant Jésus, le sang de Jésus coulait pour toi. Bah, qui te regarde, qu'est-ce qu'il veut lui? On a besoin d'inverser cette tendance pour pouvoir dire des vérités spirituelles. Mais cette tendance doit être inversée. Il faut que gagner la confiance des gens autour de nous. Peut-être tout simplement en suggérant une petite prière. Écoute, je vais prier pour toi. Ben, je vais penser à toi, parce que rien que le mot prier, des fois, waouh, oh là, ça va là? Prie pour moi, c'est ça. C'est quoi ce truc là? Prie pour moi. Pense à toi, ah là c'est pas pareil. Là on commence à avoir une relation un peu plus proche. Ah ben il pense à moi, ah ben il pense à mes soucis, il est de tout cœur avec moi, il m'accompagne, il est bienveillant, il me comprend. Et ça c'est déjà un pas énorme. Pour la plupart des gens autour de nous, qui sont dans un mal à l'aise, un manque de confiance dans leur entourage qui est énorme. Vous savez qu'il y a des gens dans ma propre famille, je ne peux pas leur dire « je prie pour toi ». Ils me prennent pour un fou. Je ne peux pas. Je suis obligé quelque part de vivre quelque chose avec eux, auprès d'eux, et puis petit à petit, oui, ils voient ma bienveillance, ils voient que je les aime, ils voient que... Et là, je peux peut-être dire, tu sais, moi je crois qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, il y a quelqu'un qui est là, qu'on ne voit pas, mais qui gère. Ouais, mais tu as vu les informations, tu as vu Fillon et machin et Macron et Hamon et... Enfin, ben ouais, mais écoute, Mélenchon, ils sont tous en on. Je dirais pas pourquoi ils nous prennent, hein, mais bon. Mais c'est ça, hein, au fond. En tout cas, je suis admiratif devant l'enseignement de Jésus. C'est concret, c'est pratique, c'est efficace, ça transmet des valeurs, ça annonce concrètement qui il est, unique objectif de l'Église. Et les foules sont frappées de l'enseignement de Jésus. Parce qu'il est dit qu'il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité, non pas comme leur scribe. Nous, quand on passe à autorité, on se dit, bah lui, quand il disait quelque chose, hein, tu le faisais. Hein. Alors là, il n'y avait pas ni d'aller à droite à gauche, tu tergiversais pas, tu faisais ce qu'il dit. C'est pas ça. L'autorité dont il est question dans ce passage, c'est, comment dire, quand il disait quelque chose, finalement, tu avais envie de le faire. Ça, c'est avoir de l'autorité. C'est pas être en haut de la pyramide et dire et donner des ordres. Ah non, non, non. C'est être en bas. C'est porter les gens. Et comme de la même manière qu'il a porté Marie-Madeleine. Et c'est sûr qu'elle avait envie d'obéir. Entre guillemets, le mot obéir, comme il a dit, Manu, il a bien raison, il est galvaudé. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'obéissance parce que, waouh, c'est trop, c'est dur d'obéir. Ben oui, on n'en a pas envie. Mais quand il y a l'amour, t'en as envie, non? Ben, je sais pas. Bon, ce soir, est-ce que je rentre chez moi? Est-ce que j'ai envie d'obéir? Il y a ma femme et mes enfants qui m'attendent dans la maison, mais est-ce que j'ai envie d'obéir? Non, c'est pas une question d'obéissance, c'est une question que c'est ma femme et mes enfants et je les aime. C'est normal que je rentre à la maison. Je ne vais pas aller dormir à l'hôtel. Et toute notre vie est basée sur ça, sur cet amour-là. Et Jésus, il n'enseignait pas comme les scribes avec des lois, mais il enseignait avec de l'amour et de la bienveillance. Et du coup, ben, les gens avaient envie de mettre en pratique ce qu'il disait. Les docteurs de la loi, à l'époque, ils avaient des tas de positions sur de nombreux sujets. Ils se citaient les uns les autres. Ils avaient chacun leur rabbi. Jésus, lui, parlait avec une autorité qui était la sienne. Les gens étaient surpris par son enseignement. Il parlait de la vie. C'était concret, c'était réalisable. Il parlait de champs, il parlait de figuier, il parlait de blé, il parlait de choses de son époque, de poissons, de pêche. On a un moyen très simple et pratique à la fois. Un moyen d'honorer Jésus par notre zèle, notre consécration, parce que notre consécration, c'est ça. Ma consécration, c'est pas de travailler un message et de vous l'apporter le dimanche. Ma consécration, elle n'est pas là. Notre consécration, elle est dans notre vie. C'est la manière dont tu reçois quelqu'un chez toi, c'est la manière dont tu t'adresses au boucher, au boulanger, tu essayes d'apprendre qui est ton garagiste ou dans le club. Voilà, c'est mardi après-midi, j'étais au club Sino avec des agents de sécurité que je ne connais pas, ils étaient en formation. Ben, je fais connaissance avec les gens. Mais j'aime bien ça. Marie-Madeleine. Devant la multitude affamée qui suivait Jésus, la vie de cette femme, finalement, n'a été que le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bienveillance. Vous imaginez, si nous disons à Jésus, « Maître, ben, je te suivrai partout où tu iras », et qu'il nous répond comme à ce scribe qui connaissait la Torah sur le bout des doigts. Le bout des doigts. Il connaissait la Torah par cœur. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Qu'est-ce que nous aurions fait? Nous serions allés de réunion en réunion, de discussion en discussion, de prédication en prédication, de formation en formation. Est-ce qu'on doit être libéré de sept démons pour devenir comme Marie-Madeleine? Moi, je crois que on ne va pas directement à la source. Souvent, on a besoin d'intermédiaires. Et peut-être que ce qui est arrivé à cette femme, ça explique aussi toute l'énergie qu'elle a déployée pour chercher son sauveur. Parce qu'elle a foncé, quoi. Marc précise ce fait, il dit « Jésus ressuscité, le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord, donc à Marie-Madeleine, et il met quand même la précision de laquelle il avait chassé sept démons. » Et comme je le disais tout à l'heure, ceux qui souffrent ou qui ont souffert voient des grandes choses se passer dans leur vie. Ce n'est pas une question d'intermédiaire. On n'a pas besoin de leur dire « Dieu est là ». Il est là. On n'a pas besoin de se rabâcher « Nous ne faisons pas partie d'une religion, mais nous avons une relation ». On n'a pas besoin de leur rabâcher ça. On le vit. Parce que parfois, on le rabâche pour s'en convaincre soi-même, tu vois. Et souvent, quand il m'est arrivé de dire ça, c'est que moi-même, j'en avais besoin. Et je ne le vivais pas vraiment. Jésus est mort, ressuscité. En tout cas, au début, elle pense qu'il est mort. C'est trop difficile. Elle l'a suivi lorsqu'il était vivant. Et voilà que maintenant, elle le suit alors qu'il est mort. Et elle se pose des questions. Je l'ai vu ressusciter Lazare. Et il est mort. Je l'ai vu. J'ai vu le jour où Jésus a ressuscité Lazare. Comment ça se fait qu'il est mort? C'est le choc. Un tombeau vide. C'est le choc. Et elle prononce là, à ce moment-là, une phrase qui lui vient du fond du cœur. « On a enlevé mon Seigneur, dit-elle. Je ne sais pas où on l'a mis. » Et là, on s'en rend bien compte qu'elle cherche quelqu'un de mort plutôt que vivant. Si elle dit ça, c'est qu'elle ne cherche pas quelqu'un de vivant. Elle est loin de s'imaginer que ce Jésus-là, son maître, est vivant. Elle croit qu'on a volé le corps. Et pourtant, dans son cœur, il se passe quelque chose. Peut-être qu'elle commence à se souvenir vaguement des paroles de Jésus. Peut-être elle commence à se dire, mais je suis bête, mais il l'a dit, le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens, se moqueront de lui. C'est les paroles de Jésus, ça. Ils cracheront sur lui, le flagelleront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Il avait dit ça. C'est lui qui l'a dit. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que les docteurs de la loi, eux, ils avaient compris, ils avaient bien entendu. Ils connaissaient très bien la Bible. Mais c'est vrai que les disciples connaissaient surtout Jésus avec leur cœur. Pour conclure, on pourrait dire qu'à la différence de la justice de l'homme, celle de Dieu pèse les sentiments cachés de notre cœur. Marie-Madeleine, elle a son témoignage, elle a sa vie, elle a son parcours, elle a sa rencontre avec Jésus. C'est la seule chose qu'on peut souhaiter aux gens autour de nous. C'est pas d'adhérer à une religion, c'est pas d'adhérer à un parti, c'est de rencontrer quelqu'un. Dieu pèse les sentiments cachés du cœur. Et Dieu tient compte de toutes les ressources que nous avons reçues. Famille, fréquentation, santé, éducation, les problèmes, les soucis, les choses qui restent attachées à nous et nous avons du mal à nous en débarrasser. Les circonstances, les époques que nous avons vécues, parce que nous avons vécu tous à des époques différentes aussi. On n'a pas tous le même âge. Dieu tient compte de tout ça, des lumières qui nous ont éclairées, des moments où nous avons souffert, des moments douloureux de notre vie, parce que d'une manière ou d'une autre, on va en voir des moments douloureux. C'est comme ça. Les avertissements qu'on a reçus. Dieu parfois nous avertit. Ce que nous avons bénéficié ou pas. Qui sommes-nous pour faire la part de tout ça chez l'autre? On ne peut pas. Comment peut-on exiger quoi que ce soit des autres? C'est pas possible. On ne peut pas coller des étiquettes sur les gens autour de nous et les mettre dans des boîtes. Parce que Dieu t'aime à toi. Dieu m'aime à moi. Quel est notre devoir si ce n'est celui d'estimer les autres comme supérieurs à nous-mêmes? Pour l'apôtre Paul, le premier des pécheurs, c'était Paul. Pour l'apôtre Pierre, c'était Pierre. Pour la femme pécheresse, c'était la femme pécheresse. Pour Marie-Madeleine, c'est Marie-Madeleine. Même si elle a vu pour la première le Seigneur ressuscité. Et pour toi? Mais je finis par cette question. Quel est le premier des pécheurs? Moi, je pense que c'est là que tout commence. Dieu ne peut pas faire quoi que ce soit avec nous si nous ne nous reconnaissons pas tels que nous sommes. Et le premier des pécheurs, ça veut dire tout simplement que nous sommes à côté de la plaque. Il y a des choses que nous sommes bien dans notre vie. Il y a des choses que nous arrivons par notre propre force à améliorer. C'est vrai. Mais au fond de nous, on sait très bien. Et il faut peu de choses pour se mettre à hurler, ou se mettre à vociférer, ou se mettre à avoir de la haine au fond de nous, se mettre à avoir des mauvaises pensées vis-à-vis des autres. Il faut très peu de choses. Tu roules pendant une demi-heure en ville, à Antibes ou à Grasse, mais tu vas voir. Tu vas vite comprendre qu'au fond de toi, il n'y a pas que du bon, et que tu t'améliores pas. Même avec 25 ans de permis de conduire. C'est pas vrai. Tu vieillis, tu es un peu plus fatigué, donc tu t'énerves un peu moins. tu t'énerves plus intérieurement, parce que rien que d'ouvrir la porte, et puis, ou d'ouvrir la fenêtre, c'est déjà toute une histoire. Alors, tu t'énerves, c'est sûr. Tu gardes un peu tes nerfs, quoi. Mais t'es autant énervé au fond de toi. Parce qu'au fond de nous, on est comme ça. On n'est pas parfait. Personne ne l'est. On peut s'améliorer un peu, mais au bout du compte, on retombe vite devant la réalité. Je vais prier. Seigneur, merci parce que, ben déjà parce que tu es ressuscité, tu étais vivant et tu es revenu à la vie. Mais tu es le seul. Tu es le seul tout simplement parce que c'est toi le créateur de la vie. C'est toi qui as tout créé. Tout a été créé par toi et pour toi. Tout subsiste en toi. Seigneur, nous sommes émerveillés devant ce que tu as pu faire de la vie de Marie-Madeleine, comme nous voulons être émerveillés de ce que tu peux faire de nos vies. Et je te prie pour chacun de nous ici, dans cette salle, que nous puissions nous tourner vers toi, te chercher, parce que tu es près de chacun de nous. Mais tu es tellement discret, Seigneur. Aide-nous à te discerner dans nos vies. Aide-nous à voir quand tu es là. Aide-nous à discerner tes appels, les chemins que tu veux que nous prenions. Aide-nous à réaliser ton amour. Combien tu nous aimes, malgré nos imperfections. Seigneur, c'est vrai que dans notre monde, nous aimons ceux qui nous aiment. Mais toi, tu nous aimes même si nous t'aimons pas. Ça, c'est une grande première, Seigneur, dans notre monde. Et nous avons besoin de l'expérimenter, cet amour, de le vivre. Et nous voulons ensemble te dire merci. Merci pour ta présence dans nos vies, même discrète. Amen.